cette décision du gouvernement de contrer la flambée des prix de l'énergie. Concrètement, les tarifs réglementés du gaz, qui augmentent de 12,6% aujourd'hui, seront gelés jusqu'en avril. Et la hausse de l'électricité plafonnée à 4% au lieu de 12, ça s'appelle le bouclier tarifaire. C'est Jean Castex qui était le porteur de la bonne nouvelle. C'était hier soir aux 20h de TF1.
Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. C'est-à-dire, nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celles qui sont envisagées. Et à partir d'avril, selon les experts, nous verrons bien comment ça évolue, le prix du gaz devrait dégringoler. Donc évidemment, la chute sera plus lente, puisque nous répercuterons la hausse d'aujourd'hui sur la moindre chute d'après.
Voilà, l'idée est donc de préserver le portefeuille des Français. Simplement, voilà, on est à 7 mois de la présidentielle, ça n'a échappé à personne. L'opposition dénonce une mesure électoraliste. Est-ce que c'est une façon d'acheter la paix sociale? On peut dire ça, Maxime Yedo?
Je ne sais pas si c'est une façon d'acheter la paix sociale, mais je pense que c'était nécessaire. Et il est important de retenir dans cette annonce de bouclier tarifaire quand même que cette hausse sera lissée tout au long de l'année prochaine. C'est-à-dire que de toute façon, cette hausse, on va la payer. C'est juste, on va dire, un moment entre parenthèses.
Ça tombe pas d'un coup,
etc. Une façon évidemment de soulager le portefeuille. Et je pense qu'on aura le temps de l'aborder peut-être un peu plus en profondeur juste après. Mais ça pose quand même la question de notre dépendance énergétique, de la façon dont on produit notre énergie en Europe.
Pourquoi en parler après, par exemple, tout de suite?
Alors, puisque vous avez les sujets. Non. Je pense que tout ça est quand même lié. Enfin, je veux dire. Dans les questions qu'on va aborder, notamment pendant la présidentielle, la question de l'énergie va être absolument primordiale, notamment la place du nucléaire, quand on voit que la mode est plus ou moins d'en sortir ou de s'en couper totalement. On voit par exemple que le chemin qui est pris en Allemagne avec 500 milliards investis depuis l'accident nucléaire japonais, les réouvertures des gaz ou des centrales à charbon, et puis surtout, accessoirement, la dépendance de plus en plus importante au projet de gaz russe, tout ça prouve que l'indépendance énergétique et la façon dont on vante les énergies renouvelables n'est pas tellement la solution miracle. Et en France, en effet, on doit préserver cette énergie nucléaire pour justement avoir le moins de prix à répercuter et à ne pas oublier, il y a toute une question également des taxes aussi qu'on paye sur l'énergie qui est une question à soulever.
Isabelle Florenne, lorsque l'opposition dénonce une mesure électoraliste, vous répondez quoi?
Moi, je réponds que le Premier ministre et le gouvernement ont eu raison d'être prudents et de mettre en place ce bouclier préventif. Je rappelle que d'autres pays l'ont fait déjà en Europe et qu'on rentre dans une période évidemment de chute de température et que...
On est tous beaucoup plus couverts, disent... sauf Louis Dragnet,
mais
qui
absolument.
Évidemment embrasse chemise, évidemment,
sorti
notre
pulls.
Super-héros.
Je peux vous
coton.
En... Non, mais voilà.
C'est pas la rubrique mode ici.
On change pas les dates comme ça des périodes automnales ou hivernales. Et que je pense qu'il fallait agir. Rappeler aussi que nous mettons en place des mesures de soutien aux familles précaires et avec la prime Rénov aux rénovations énergétiques, c'est important. Et le Premier ministre a souligné l'importance de ces mesures et des efforts qui sont faits de soutien sur ce domaine énergétique. Et bien entendu, je suis d'accord. Ça va être le débat aussi de la présidentielle, qui est cette question d'indépendance énergétique et surtout de l'énergie décarbonée.
Louis Dragnel,
écoutez, moi, je trouve que commenter cette mesure, c'est intéressant, mais ça résout absolument pas le fond du problème. Effectivement, vous l'avez pointé du doigt, Maxime Yedo, c'est nos capacités de production énergétique. Et on voit bien, en fait, de plus en plus qu'on est à deux doigts de craquer parce qu'on n'a pas une autonomie stratégique suffisante, nous, Français. On est trop dépendants à la fois du vent et des autres. Et être dépendant du vent, c'est quand même un aléa assez important, notamment pour les éoliennes. Puis c'est un peu...
Vous savez que les éoliennes, c'est 5% de l'énergie.
Je sais bien, mais on dépend aussi du vent. Il y a de l'énergie qui est produite
de l'Europe.
Dans le nord de l'Europe et l'est de l'Europe. Et on en est fortement dépendant.
Je parlais de l'Hexagone. Ouais.
Exactement. Et à l'heure où la Belgique est en train de fermer ses centrales nucléaires, l'Espagne est en train de faire la même chose. Donc tout le monde est en fait en train de se mettre soit à reproduire de l'énergie avec du charbon ou du pétrole, soit en important important de l'énergie qui vient de Russie. Je pense que maintenant, il faut ouvrir les yeux et se dire qu'on a cruellement besoin du nucléaire. Et je pense que dans les années à venir, il n'y a pas d'autre choix. Et je pense même que c'est une bonne chose. Ce serait courageux de la part d'un candidat à la présidentielle d'annoncer la construction de nouvelles centrales nucléaires dans le pays. C'est une énergie qui ne pollue pas. C'est une énergie qui permet quand même de produire des quantités énormes en termes de mégawatts. Et en fait, il n'y a pas d'autre solution. Quand on regarde en plus les perspectives d'avenir, on voit que notre augmentation de consommation en énergie, nos besoins vont augmenter de 10 à 15%
les voitures
dans les prochaines années. Alors c'est génial, tout le monde vend tout électrique partout, mais l'électricité, elle se produit comment? Enfin, vous voyez, il y a un moment donné où, si vous voulez, il faut être cohérent. On ne peut pas vouloir le tout électrique et puis de l'autre côté, fermer des centrales nucléaires. L'énergie vient bien de quelque part. Et c'est pas en recréant des moulins à vent partout qu'on y arrivera. Donc moi,
les moulins à vent, c'est les éoliennes, c'est ça?
Voilà. Les moulins à vent, à la limite, c'était joli et ça servait vraiment à quelque chose, puisque derrière, on pouvait faire de la farine, on pouvait faire plein de choses.
Écoutez, tant que vous n'êtes pas comme Sancho Panza qui lutte contre les moulins à vent, tout va bien.
Non, mais il faut assumer. En fait, c'est un vrai sujet. Le nucléaire, il y a tellement de fantasmes sur cette question-là. Je pense maintenant, on a de la chance d'avoir des capacités nucléaires. On était une vraie force. La France est un des pays, un des pionniers du nucléaire civil. Et je pense que du coup, il faut accroître, assumer de défendre ce patrimoine énergétique français.
Louis Osalter, que je salue.
Bonjour Pierre. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais justement, sur le patrimoine énergétique et notre capacité à faire des centrales nucléaires, le fait de n'en avoir pas fait pendant si longtemps a entamé notre capacité, notre expertise en la matière. Et on voit bien que sur les chantiers d'EPR, en fait, on se rend compte, à Flamanville, qui a pris un retard à la fois en temps et un retard financier, en tout cas un gouffre financier considérable, ça montre en fait notre incapacité à construire la prochaine génération de réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que quelque part, ce qui est effrayant, c'est qu'on n'arrive plus à bien construire une centrale nucléaire.
Qu'est-ce
parce qu'on
ne
l'a pas
de dire
fait depuis longtemps. Et les retards considérables et le désastre qu'a été le PR de Flamanville.
Alors, des capacités qui sont limitées. Parce que
comparé à ce qu'on a pu
connaître, on fait revenir des retraités d'EDF.
Exactement.
On n'a pas encore atteint la rupture capacitaire. Et puis il y a un autre sujet que vous pointez du doigt. C'est un vrai risque, c'est que si on disparaît du nucléaire civil, on disparaît aussi du nucléaire militaire.
Bien sûr.
Et là-dessus, en fait, les mêmes qui vous vantent la souveraineté nationale, la défense, l'armée française, l'importance d'avoir une armée puissante, première armée d'Europe, ceux qui sont contre le nucléaire, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ils souhaitent qu'on conserve ses capacités militaires et de dissuasion en perdant nos capacités.
Parce que là-dessus, c'est surtout que c'est l'avenir des sous-marins.
Absolument.
Aussi.
Et c'est le politique qui est responsable. Donc si je fais ça, je termine mon raisonnement, c'est parce que pendant ce quinquennat n'a pas été posée cette question, ou plutôt la réponse n'y a pas été apportée. Emmanuel Macron n'a pas décidé de quelle façon précise nous ferions le mix énergétique pour les 40, 50, 60 prochaines années. Pourtant, on a des scénarios, il y a le RTE, les réseaux de transport d'électricité qui travaillent sur des scénarios, ils sont capables de nous dire, voilà ce que ça donne, si on pousse les renouvelables à 30%, si on refait du nucléaire à 30%, RTE va encore publier d'ailleurs des scénarios fin octobre qui permettent de se faire une idée de ce qu'il est possible de projeter dans la répartition du mix énergétique français, mais le grand problème c'est que pendant ce quinquennat, c'est une décision présidentielle et Emmanuel Macron n'a pas dit ce qu'il souhaitait pour l'avenir de la filière nucléaire et pour l'avenir de la répartition énergétique en général, donc de la façon dont on va faire une électricité dont effectivement nous avons de plus en plus besoin.
Pourquoi ce retard en termes de communication justement?
Le retard, il est idéologique en fait. C'est-à-dire que moi ce que je dis, il y a 5 ans, je passais pour un fou. C'est un discours qui passait absolument pas. Aujourd'hui, si vous voulez, après ce qui s'est passé avec le Covid et puis avec les besoins énergétiques aujourd'hui qui s'accroissent, tout le monde a bien compris que l'énergie, déjà, ça coûte cher en fait, et le nucléaire, c'est ce qui coûte le moins cher. Enfin, c'est une des énergies qui coûte le moins cher. Donc, la première raison, elle est idéologique.
Mais même ces diagnostics, ils arrivent tard là. Fin octobre.
Le diagnostic, on pouvait le faire. Il y a quand même.
Il y en avait déjà. Mais là, il y en a des nouveaux.
Ils étaient inaudibles. Aujourd'hui, effectivement, ils sont un peu plus audibles. Mais je voulais juste rassurer Louis Osalter. Alors, ça va peut-être pas vous rassurer, parce que il y a une forme de cynisme un peu dans ce que je vais dire. Mais nous sommes à 6 mois de la présidentielle. Le président va
J'avais
faire.
J'avais compté 7 mois, mais c'est peut-être 6.
7, pardon, 6 mois et demi. On s'y rapproche. En tout cas, chaque mois supplémentaire, c'est un mois de moins. En tout cas, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Et donc, le président devrait parler du nucléaire dans les prochaines semaines, dans le cadre cadre de la présentation de son plan d'investissement. Et donc là-dessus, Emmanuel Macron, pour le coup, ne pourra pas se dérober. Il va être obligé d'exprimer une position extrêmement claire.
Au moins pour le mettre dans son
plan. Et vous posez la question de pourquoi des réactions, notamment élyséennes ou gouvernementales, tardives. Tout simplement parce qu'on a eu ces derniers mois des exemples concrets de notre manque d'énergie. On se souvient l'hiver dernier, certaines villes ou certaines habitations en incapacité de pouvoir faire fonctionner leurs compteurs correctement ou se retrouver littéralement dans le noir.
Vive le nucléaire alors.
Mais on se rappelle même par exemple de la ministre Barbara Pompili annoncer que pour certains endroits en France ce serait compliqué. On a même relancé des centrales à charbon, en effet, parce que certains EPR avaient pris un retard considérable, parce qu'il y avait du manque de vent. Donc en France cet hiver, alors certes de façon très éphémère, mais on a relancé des centrales à charbon. Donc tout ceci évidemment relance le débat de façon un peu considérable. Et puis il y a eu évidemment cette crise et ces derniers mois avec à mon sens la primaire écologiste qui a posé de véritables questions. Quand on voit beaucoup de candidats avoir des mensonges sur le nucléaire français, dire qu'on est incapable de démanteler les centrales nucléaires, c'est faux. On le voit très bien, par exemple, à Chinon, c'est ce qui est en cours. Louis de Ragnel vient de le rappeler, mais le prix des énergies renouvelables sont souvent plus élevés que le prix du nucléaire. Et ensuite, évidemment, il y a encore énormément de progrès à faire dans l'enfouissement des déchets nucléaires, mais c'est un domaine, on n'en a plus beaucoup, il faudrait s'en vanter, dans lequel la France est assez experte encore. Donc vous voyez, toutes ces questions poussent quand même tout doucement à nous encourager à avoir un regard un tout petit peu lucide sur l'état du nucléaire
Isabelle
en France.
Isabelle Thorenne.
Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit sur Emmanuel Macron quand même tout au long de ce mandat et ces deux dernières années encore. Je pense que dans un certain nombre de ses interventions, de ses déplacements, il a pu réaffirmer son souhait de voir la part du nucléaire maintenue, même si je reconnais qu'au sein de cette majorité et même au sein du gouvernement, mais je reconnais, et personnellement, moi, avec le groupe du Modem, des démocrates, on est favorable au nucléaire, et avec François Bayrou, on a eu l'occasion, et François Bayrou l'a redit dans ses missions qu'il assume aussi au commissariat au plan, toute l'importance que devait avoir le nucléaire dans le mix énergétique, parce qu'il faut réfléchir également à ce mix, mais qu'on n'est pas encore prêt à baisser la part du nucléaire. Donc là, il y a un débat. Je reconnais qu'il y a un débat au sein de cette majorité.
Au sein, voilà, du
bien
gouvernement.
Entendu.
Et même au sein du gouvernement.
Il y a un débat, mais je crois quand même que la parole du président de la République, et je suis d'accord avec vous, sera importante dans les mois qui viennent sur le programme et sur les enjeux sur ces sujets. En tout cas, avec un certain nombre de députés de la majorité, nous pencherons pour cette énergie décarbonée.
C'est un nouvel exemple criant du fait que dans cette majorité plurielle, on a du mal à se mettre d'accord, puisque on conjugue.
Là, il va falloir se mettre d'accord.
Barbara Pompili, qui, rappelons-le, est une militante écologique depuis toujours, avec, vous parliez du Modem et d'autres forces
politiques. Qui est plutôt pro-nucléaire. Oui. Mais après, le nucléaire a toujours été, c'est assez étonnant, ça fait partie de ces totems un peu au sein de la société et de la vie politique, où dans toutes les familles politiques, vous avez des pros et des anti.
Enfin là, c'est flagrant quand même, on a le spectre macronien, c'est... Alors, est quand même beaucoup plus étendu.
De pro-nucléaire, l'anti, quand même.
C'est pas de figure géométrique, mais en l'occurrence...
Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron, aussi, au début de son quinquennat, était mis sous pression, quand même, sur cette question du nucléaire. Il y avait beaucoup de... même au sein de la population, il y avait une forte pression pour limiter, diminuer la part du nucléaire. Et du coup, il avait dit qu'il ne s'exprimerait sur le nucléaire que quand on avait les résultats de Flamanville 3, pardon. Ouais. Donc les résultats sur l'EPR. Et on les a toujours pas. Et c'est la raison pour laquelle, je crois que c'était ce matin, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui a demandé, c'est passé comme ça à l'air de rien, est-ce qu'on puisse accélérer sur les EPR. Donc je pense qu'elle est peut-être en train de préparer un tout petit peu la prise de parole du président de la République en quelques semaines sur le sujet.
Mais surtout, pardonnez-moi, on parlait de se mettre d'accord, il va falloir se mettre d'accord entre les différents partis très rapidement, parce que même s'il y a un lissage pendant encore une grosse année, la répercussion sur les ménages, notamment grâce à l'inflation ou grâce à l'inflation à cause de l'inflation qui est en train d'arriver, va se faire ressortir un peu partout. L'énergie en prend un sacré coup. On voit que c'est pour tous ceux qui travaillent dans les métiers manuels, voient certains prix du bois, du plastique, du métal flamber, et tout doucement également, même les entreprises françaises vont faire répercuter répercuter sur leur fabrication. 10% de toutes les hausses qu'ils sont en train de subir. Donc même le danger de l'inflation va avoir une répercussion sur les ménages qui va être terrible. Et je ne suis pas sûr que le chèque énergie, par exemple, qui convient, c'est le revenu annuel ne doit pas dépasser les 10 800 euros, je crois. Donc ça veut dire qu'on gagne 900 euros par mois. Je veux dire, quand on gagne un tout petit peu plus et qu'on n'y est pas éligible, ça pose quand même beaucoup de questions. Je suis pas sûr qu'en gagnant 1 200 euros par mois, par exemple, il soit aisé de payer une telle hausse de l'énergie sur son foyer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu tout un sujet, évidemment, sur les logements qui étaient de véritables passoires thermiques et qu'on a mis un peu de temps à régler.
Louis Osalter.
J'insiste juste sur un point qui est évoqué, celui du savoir-faire. Là, on parle de la demande et du pouvoir d'achat. Et alors, mais le problème qu'on a, c'est un problème d'offre, on l'a tous évoqué ici. Le positionnement d'Emmanuel Macron, c'était quand même de dire à EDF, c'est important de savoir ça, comment ça s'est passé en coulisses, Emmanuel Macron a un bras de fer avec EDF en leur disant « Montrez-moi que vous êtes capable de construire une centrale nucléaire ». Et c'est pour ça que j'insistais sur l'enjeu de l'EPR. Si la filière nucléaire française n'arrive plus à construire de façon cohérente, sans un débordement de coûts et dans les temps une centrale, c'est quand même une grande préoccupation. Je pense que Emmanuel Macron, pour le coup, en est conscient, mais en coulisses, je pense que ça explique aussi en partie son retard à s'exprimer là-dessus pendant son quinquennat. En coulisses, il y a un bras de fer avec EDF. Emmanuel Macron met la pression sur la filière pour dire « Montrez-moi que vous êtes capable de délivrer un réacteur nucléaire moderne dans les temps et qui ne coûte pas un montant faramineux », c'est-à-dire l'inverse de la catastrophe de Flamanville. Et ça, c'est évidemment l'enjeu de savoir-faire, d'expertise, de technologie pour notre filière nucléaire qui historiquement, a un savoir-faire énorme, bien sûr.
Louis Osalter de Marianne, Louis de Ragnel d'Europe 1, l'essayiste Maxime Yedo et Isabelle Florenne, députée Modem des Hauts-de-Seine, sont avec nous jusqu'à 20h dans un instant. On parle de la bombe de cette fin de semaine, la condamnation de Nicolas Sarkozy. À tout de suite. Europe.